Chapitre 5. La guerre. Martin s'ennuyait. Il avait envie de courir. Il avait envie de pleurer. Il s'était dit que peut-être le fauconnier le relâcherait lorsque le hobereau serait parfaitement dressé. Et le fauconnier ne l'avait pas relâché. Le petit prisonnier ne pouvait se résoudre à passer toute sa vie dans cette chambre étroite où il faisait de plus en plus froid, de plus en plus humide, à mesure que l'automne s'avançait. Et puis le geôlier lui avait apporté une pomme, une joue rouge, une joue jaune et un parfum. C'était justement ce parfum qui donnait à Martin son envie de pleurer. Il y a des chagrins trop lourds quand on n'a que 12 ans. Et ce parfum... Martin n'avait qu'à fermer les yeux pour revoir les pommes tombées dans l'herbe mouillée. Et puis les prunelles qui, en séchant sur les branches noires, perdent un peu de leur âpreté. Et puis aussi les minuscules petits fruits de l'aubépine qu'il grignotait en gardant les oies. Si je commence à penser à tout ce que je faisais, je vais devenir fou. Pour essayer de se consoler, il ajouta à haute voix. Après tout, je m'ennuyais souvent. Que j'ai pu m'ennuyer avec ces oies dans les champs? Ce n'était pas vrai, mais Martin fit semblant de le croire, pour se redonner du courage. À quoi servait de pleurer? Mieux valait manger la pomme et qu'on n'en parlât plus. Le fruit entre les dents, il bondit sur la fenêtre. Quel progrès il avait fait en 15 jours! Les doigts trouvaient leur prise tout seuls. Les pieds connaissaient la petite cavité où ils prenaient appui. Les reins savaient exactement à quel moment ils devaient se tendre pour terminer l'escalade. Hop! Cette fois, Martin n'acheva pas le mouvement. Il resta à plat ventre sur la pierre, saisi de surprise. À l'horizon, un grand nuage de poussière montait. Ce n'était pas un troupeau, car les troupeaux ne font pas d'aussi grandes nuées. Et puis parfois, un éclair jaillissait, aussitôt éteint. On dirait... Mais alors, pourquoi le guetteur ne donnait-il pas l'alarme? Pourquoi les soldats se promenaient-ils aussi tranquillement sur le chemin de ronde? Et pourquoi un homme s'approchait-il de ce garde là-bas? Et pourquoi lui parlait-il à l'oreille? Les questions se pressaient dans la tête de Martin. Il ne savait comment s'expliquer tout cela. Il était sûr à présent que c'était une armée qui arrivait, qu'il allait y avoir un massacre de plus, un incendie encore, et le pillage toujours recommencé. Les éclairs que Martin apercevait du haut de la tour étaient ceux des armures frappées par le soleil. Une main en visière, le garçon essaya de mieux voir. Il aurait tant voulu s'être trompé, il aurait tant voulu que son village ne brûlât pas. Mais il brûlerait, c'était certain, comme chaque fois. Si le soldat de guet ne bougeait pas, c'était parce qu'il y avait un complot. On l'avait payé pour livrer les tours imprenables. Lorsqu'il donnerait le signal, ce serait trop tard. Voilà pourquoi, sans doute, il avait l'air si calme. « Que faire? Que faire ?» murmura Martin en se mangeant le poing. On voyait déjà les oriflammes, toute une armée. Le château allait se laisser surprendre. C'était l'heure où, dans les champs, les manants avalaient leur soupe ou sommeillaient au creux d'un fossé avant de reprendre le travail. Martin n'y tint plus. Il fallait avertir Sir Guilhem, appeler le garde si celle-ci n'était pas tout entière achetée. « Alerte ! » cria-t-il en se cramponnant à la fenêtre. Sa voix se perdit entre ciel et terre. Les gardes ne bougèrent même pas. Jamais je ne pourrai. Il courut à la porte, la frappa de ses poings. L'ennemi arrive, nous sommes trahis. Ouvrez-moi, ouvrez! Ses mains s'écorchaient sur le bois, sans pouvoir l'ébranler. Personne n'entendrait Martin dans une tour aussi reculée. Il devait quitter cette prison, sortir coûte que coûte. Accroupi sur la fenêtre, il étudia les lieux. À droite, à plus de 10 pieds en dessous, aboutissait un créneau. Il y avait des pierres à bossage qu'on pourrait peut-être utiliser, et même une excavation. Mais non, impossible de s'accrocher, de descendre le long de la muraille. Jamais pied humain ne pourrait se tenir sur cette paroi verticale. Par contre, peut-être qu'un saut, en prenant appui sur le rebord de la fenêtre, en calculant bien son élan, seulement il faudrait réussir la première fois. Pas moyen de recommencer. Si Martin n'atteignait pas le créneau, ce serait la chute dans le vide. L'enfant hésita, il avait peur. Il sentait au-dessous de lui ce gouffre dans lequel il allait sans doute être précipité. Là-bas, le nuage grandissait, le danger approchait. Ici, c'était la cellule étroite, oubliée du reste du monde. Il ne fallait qu'un saut, en gardant les yeux ouverts. Il sauta. Cela se passa très vite. Martin toucha à peine le créneau et il boula aussitôt sur le chemin de ronde pour ne pas retomber en arrière. Quel bonheur de sentir le rude contact de la pierre râpeuse. Il en avait l'épaule froissée, la hanche endolorie. Quelle importance! Un regard vers la petite fenêtre, si haute, le fit frémir. Comment avait-il osé? Il n'était pas temps de s'extasier sur sa propre audace. Martin savait qu'il ne devait pas perdre un instant. Il pouvait être arrêté par les gardes avant d'avoir donné l'alarme. Inutile de ruser, il fallait courir à la chapelle. Là seulement était le salut. Il s'élança sur le chemin de ronde, pénétra dans une tour ouverte à tous les vents, dégringola un escalier qui, comme une vrille, semblait descendre au cœur de la terre. Un garde passa. Martin le bouscula sans lui laisser le temps de comprendre. « Le pied de la tour, l'air libre, l'herbe de nouveau sous ses pieds !» Dans la chapelle, le chapelain priait. C'était tout naturel. Martin ne le dérangea pas. Il était si gros, le chapelain, si long à comprendre ce qu'on disait, qu'il aurait été bien vain de tenter de lui expliquer que le château allait être attaqué. Plus efficace était la cloche au bout de la corde. Martin, le souffle haletant, se suspendit et tira de toutes ses forces. La bonne cloche ébranla l'air d'un coup très sourd. Martin s'accrocha de nouveau, il tira, un deuxième coup, un troisième. Le gros bourdon sonnait maintenant le tocsin à toute volée. Martin ne faiblissait pas. C'était lui qui faisait tout ce bruit dans la chapelle du Seigneur. Lui, le petit gardeur d'oie ? Ce n'était pas possible. Une sorte de joie s'empara de son cœur. Ses pieds, à chaque balancement de la cloche, quittaient le sol pour y revenir au balancement suivant. Quel jeu passionnant, si ce n'avait été un cri d'alarme. Dans la campagne, les paysans entendirent le tocsin. Ceux qui travaillaient se redressèrent. Ils écoutèrent un moment ce bourdon qui annonçait le malheur. Ils restèrent les bras ballants, comme s'ils n'avaient pas voulu le croire. Ils se regardèrent afin de trouver dans les yeux du voisin un reflet de leur propre peur. Puis ils jetèrent leur houe et quittèrent le champ. Ceux qui dormaient l'entendirent du fond de leur sommeil, et le sommeil partit. Ceux qui mangeaient serrèrent contre leur poitrine l'écuelle où restait un peu de bouillie d'orge, et tous coururent vers le château. Les femmes hésitèrent moins. Elles rassemblèrent leurs enfants avec des cris, de grands mouvements de bras. Elles ramassèrent les bébés, les fourrèrent au creux de leurs jupes avec le crouton de pain noir du déjeuner et prirent elles aussi le chemin du refuge seigneurial. Il fallait sonner encore, sonner toujours. Le chapelain, tiré de ses pensées, comprit enfin qu'un danger était imminent et il arriva en soutenant son ventre à deux mains. « Que fais-tu donc là, mon enfant? Que sonnes-tu? Es-tu fou ?»« Non, mon père, je ne suis pas fou, » répondit Martin en quittant le sol une fois encore. Et quand il toucha de nouveau terre au pied du chapelain, « Nous sommes attaqués, il faut bien prévenir le Seigneur. »«
Nous sommes attaqués ?»«
Eh oui, mon père. Comment le sais-tu? Qui te l'a dit ?»«
Je l'ai bien vu tout seul. »
Il était si excité, Martin, qu'il en oubliait ce religieux respect que l'on devait aux gens d'église. Il criait très fort pour couvrir la voix du bourdon, et le chapelain le suivait des yeux dans son va-et-vient vertical pour essayer de voir clair dans ce que lui disait cet insolent petit rustre. Lorsqu'il fut assuré que tout le château était en branle-bas, Martin lâcha la corde. Le dernier coup de cloche se perdit dans le bruit des préparatifs de défense. « Si c'est moi qui le raconte à notre Seigneur, on ne me laissera pas parler, » dit l'enfant en se frottant les mains. « Mais si c'est vous, mon père, on vous croira. » De là-haut, j'ai vu des choses qui m'ont paru étranges. « Je t'écoute, mon fils, » répondit le prêtre avec curiosité. Dans la pénombre de la chapelle, Martin eut bien envie de charger le fauconnier du complot qu'il avait flairé. C'était si tentant. Il résista pourtant à la tentation, mais il mélangea si bien les oiseaux de proie et les hommes d'armes, la prison et le geôlier, le fauconnier et l'ennemi qui arrivaient sous les murs, que le saint homme n'y comprit rien. « Va, mon fils, » dit celui-ci. Et il alla s'agenouiller pour chercher sincèrement le parti qu'il devait prendre. L'enfant profita du tumulte général. Maintenant, il ne risquait plus d'être arrêté. Dans les créneaux, tous les visages devaient se tourner vers l'armée qui approchait, qui gravissait la colline et serait bientôt à une portée de flèche. Les paysans, talonnés par la peur, se pressaient sur le pont-levis. L'un voulait faire entrer sa vache, l'autre avait trois moutons à sauver. Ils se bousculaient, frappaient de leurs bâtons les chines des bêtes et le dos des voisins, avec des cris, des jurons et des invocations adressées au ciel. Une fois le pont passé, ils se taisaient. Ils étaient à l'abri des remparts, qu'importait le reste? Y aurait-il eu, sans cette attaque, moins de famine, moins de travail et de misère? Une femme, pourtant, continuait de pleurer. Assise sur une botte de paille, les pieds nus dans la boue, elle inspectait chaque fenêtre étroite, chaque échancrure des murailles, dans l'espoir d'y trouver son fils. « Ne pleure pas, la mère, » grogna le mari en posant maladroitement sa grosse patte sur l'épaule de sa femme. « On le dit en pénitence, il est aussi en sécurité. À cette heure, il vaut mieux être dans le château qu'au village. »«
Cela fait tant de jours déjà. »
« Mais Sir Guilhem nous le rendra. Il est bon, lui. » L'homme n'acheva pas d'exprimer sa pensée, des oreilles partout écoutées pour le plus grand profit du maître fauconnier. Pendant ce temps, à l'autre bout de la cour, Martin rejoignait la masse des réfugiés. D'abord, il fut surpris par ce spectacle, que pourtant il ne voyait pas pour la première fois. Puis il se faufila au milieu des groupes d'hommes et de femmes mêlés aux porcs et aux volailles, parmi le foin et les flaques d'eau. Il courut de l'un à l'autre à la recherche de ses parents, et les visages résignés se tournaient vers lui chaque fois qu'il les interrogeait du regard. Tous les villageois étaient là, et personne ne lui adressait la parole. On aurait dit qu'ils oubliaient en eux-mêmes l'heure difficile qu'ils avaient à traverser. « Mère !» Il venait de l'apercevoir.